franceinter.fr. France Inter.
Catherine Boulet.
Éric Delvaux.
Le 5-7.
Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est l'économiste Frédéric Farah, co-auteur du livre « Introduction inquiète à la Macron-économie », sorti il y a quelques mois.
Oui, c'est un livre dans lequel vous avez tenté de démonter ce que vous aviez appelé à l'époque la « bulle Macron », qui ne repose selon vous que sur de vieilles idées. Bonjour Frédéric Farah.
Bonjour.
À propos de la réforme du travail, telle qu'elle se précise un peu plus chaque jour, est-ce que vous n'y voyez toujours que de vieilles recettes qui donc ne porteront pas leurs fruits selon vous? C'est bien ça?
Exactement. Ce sont des vieilles recettes qui sont déjà bien présentes. Je rappelle, si on remontait au milieu des années 80, souvenez-vous, la suppression de l'autorisation administrative de licenciement. On a multiplié les lois sur la flexibilité. On a fait en sorte que le marché du travail devienne moins rigide. Et il y a toujours les mêmes deux dogmes qui reviennent et qui font pour moi que c'est toujours une vieille histoire. Le premier dogme, c'est que le droit du travail est un frein pour l'action des entreprises. Ouais. Et le deuxième dogme, c'est que le marché du travail français, s'il est segmenté, parce qu'il y aurait des salariés protégés contre les autres.
On va reprendre le premier chapitre de votre développement. L'actuel code du travail comme frein à l'embauche, vous n'y croyez pas. Pourtant, il faudrait le dépoussiérer ou pas, ce code du travail tout de même. Et comment ?
Écoutez, je n'y crois pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a fait plusieurs réformes lors du quinquennat précédent. Ont-elles été évaluées? A-t-on la loi Rebsamen, la loi El Khomri? Est-ce qu'on sait si ça crée des emplois ou pas? On n'en sait rien. Et on est prêt à en rajouter une autre pour complexifier encore plus le droit du travail. Alors que normalement, on doit le simplifier. Alors, on rajoute une nouvelle loi sans avoir... Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est toutes les modifications qui ont eu lieu, qui ont complexifié le droit du travail. Si on disait, par exemple, dimanche, on ne peut pas travailler, ça fait un article. Si vous rajoutez toutes les modifications, les aménagements, ça gonfle le droit du travail.
Bon, il n'est pas trop épais ce code du travail ?
Écoutez, moi je pense qu'il n'est pas si épais que ça. Si on arrêtait de multiplier les lois les unes après les autres, comme je disais, sans faire des évaluations, peut-être on pourrait l'alléger. Mais certains confondent simplification avec libéralisation excessive.
Flexibiliser le travail en même temps, en avançant, en dialoguant avec les syndicats, est-ce que c'est comme ça que vous résumeriez la méthode Macron?
La méthode Macron, il est habile, il se rend compte qu'il est nécessaire de faire, comme il dit, une concertation. On voit bien dans ce qui est sorti hier que la branche est un peu réhabilitée, donc il essaye de faire en sorte de ne pas s'attirer un été un peu compliqué. Mais tout n'a pas été encore mis sur la table. Mais il avance à pas prudent, parce que commencer un quinquennat en mettant plusieurs millions de Français dans la rue, je suis pas sûr que ça soit une bonne stratégie.
Parce qu'hormis la CGT, il n'y a pas beaucoup de mobilisation contre de la part des syndicats.
Pour l'instant, les autres syndicats essaient de voir ce qui se passe. Et la CFDT, globalement, c'est, si on prend la CFDT, c'est son front de commerce. Hein.
C'est un syndicalisme d'accompagnement pour vous ?
Oui.
Bon.
Dans les pays scandinaves, l'accompagnement de la flexibilité se fait avec une meilleure indemnisation des chômeurs. Mais vous dites, en France, la compensation, cette indemnisation, n'y est pas, elle n'est pas suffisante. Est-ce qu'il faudrait l'augmenter ? Est-ce que ça ne fait pas partie de la négociation à venir ?
Oui, et regardez, c'est étrange parce que hier, toutes les mesures concernant, par exemple, l'assurance chômage, la formation professionnelle, nous a dit c'est pour plus tard. Donc vous voyez, c'est un peu étrange. Donc quand il s'agit de flexibiliser du côté de l'employeur, là on a l'impression qu'on a les mesures qui arrivent maintenant. Et pour les salariés, il faut attendre.
Mais parce qu'il faudra dialoguer, ça va être l'objet des rencontres tout l'été
et à l'automne.
C'est
l'objet de la négociation.
Oui, mais je pense que si symboliquement on voulait un petit peu montrer les choses de manière un peu plus du côté des salariés, on aurait pu hier essayer déjà d'avancer des premières propositions. On n'accompagne pas assez, effectivement, je suis d'accord. Et vous parlez des exemples des pays scandinaves. Dans le cas du Danemark, très vite, il y a eu ce fameux ces accompagnements des chômeurs.
Flexi-sécurité.
Mais n'oublions pas la recette du Danemark qui a fait que ça a marché ces dernières années. C'est deux éléments qu'on ne dit jamais. Un, l'État danois a fait de la relance budgétaire pour 5 points de PIB. Et deuxièmement, il y a eu une politique monétaire qui était plutôt, comme on dit, accommodante au Danemark, qui a aidé la flexi-sécurité. Donc toute seule, elle n'aurait peut-être pas complètement fonctionné.
Sur les contrats à durée indéterminée, dont certains pourraient devenir des contrats de projet, le temps d'une mission, le temps de construire un tunnel par exemple, pourquoi ne croyez-vous pas à l'argument du gouvernement quand il dit que ça va finalement faciliter les embauches, notamment dans les PME ?
Pourquoi je n'y crois pas? Parce que, alors même si c'est pas tout à fait la même chose, c'est que je regarde des expériences étrangères un peu similaires. En Italie, on a eu quelque chose qui ressemblait à ça, qui était une sorte, qui s'était appelé aussi contrat de projet, où on va dire que le lien de subordination était moins présent dans que dans le contrat de travail habituel en Italie. Ça a donné lieu à beaucoup d'abus, ça a permis d'aiguiser des CDD, ça n'a pas créé d'emplois. Et en fait, pourquoi j'y crois pas? Parce qu'en fait, on dit, si on crée des conditions pour embaucher plus facilement, licencier plus facilement, alors les entreprises seront tentées d'embaucher plus. C'est comme si finalement, c'était le droit qui crée l'emploi. Mais n'oubliez pas l'étude de l'INSEE qui est tombée il y a quelques jours, qui est la première chose que regarde l'entreprise, son carnet de commandes. Donc même si demain on vous crée toutes les meilleures conditions pour embaucher, mais l'horizon économique est un peu obscurci, je suis pas sûr qu'on embauche.
Le patron de la CGPME n'est pas de votre avis. Je vous renvoie au propos de François Asselin, le président de la CGPME, quand il dit que ce qui intéresse les dirigeants de PME, c'est justement que toutes ces mesures autour de la rupture du contrat de travail avancent, que ça devienne une priorité. Ça veut dire que les PME, les TPE également, sont intéressés par le fait de pouvoir se séparer d'un salarié pour mieux embaucher derrière, probablement.
Il existe déjà la rupture conventionnelle, qu'on a déjà mis en place, qui est utilisée très fréquemment. Donc là maintenant on nous sent l'argument, oui on va rassurer les PME, donc les PME embaucheraient. Donc en gros c'est le droit qui crée l'emploi. Je suis pas sûr de ça, je suis pas convaincu, surtout que tous les allègements précédents, est-ce qu'on nous a fait la preuve que ça crée plus d'emplois? Chaque fois vous voyez c'est toujours le même deal, c'est-à-dire donnez-nous un peu plus de facilité juridique, donc les emplois vont venir. J'ai l'impression que le compte n'y est pas. Hein.
On peut expliquer ce matin pourquoi les accords de branche semblent revaloriser les accords de branche professionnels. Est-ce qu'on peut expliquer ça en quelques secondes?
Alors, les accords de branche, alors tout d'abord, plusieurs choses à dire très vite. Premièrement, nous sommes un pays où on a le plus grand nombre de salariés couverts par des accords de branche, donc c'est-à-dire des accords qui vont se faire entre représentations syndicales, enfin du côté des salariés et les représentations patronales, qui vont effectivement couvrir une branche d'activité, avec cette idée que si l'accord de branche est plus favorable que l'accord qui peut se faire au sein de l'entreprise, c'est l'accord de branche qui devrait s'étendre.
Ça, l'inversion des normes en fait.
Voilà, l'inverse. Et là aujourd'hui on assiste à l'inversion des normes dans certains secteurs où on va dire que ce qui va se faire dans l'entreprise pourrait s'imposer. Alors aujourd'hui ça a suscité de l'inquiétude de voir que les normes soient baisser. Donc le gouvernement n'est pas bête. Il essaie de dire, bon, on va revaloriser sur certains secteurs les branches pour ne pas inquiéter les salariés.
La méthode Macron, ce sera un peu donnant-donnant. Merci Frédéric Farage. Je renvoie donc à votre livre sorti il y a quelques mois qui s'appelle Introduction inquiète à la Macron économie.
Merci
et bonne journée.
Merci vous aussi.